enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais ce matin rapidement vous partager un point tout simple, mais qui est important aussi dans le fait d'aller de l'avant. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qu'est-ce que c'est que la valeur du sang? Vous savez que dans la conception chrétienne, nous sommes, enfin dans la réalité de ce monde, il y a le monde spirituel et il y a le monde matériel. Et le monde matériel n'est que le résultat à la fois de l'action du monde spirituel et aussi peut-être le résultat de l'action de ceux, donc les nés de nouveau, peuvent donc dans leur relation avec le Christ, en qui la relation entre le monde spirituel et le monde matériel ont été faites, eh bien les chrétiens sont donc appelés à avoir une action, à avoir une action dans le monde spirituel pour que ensuite cela ricoche sur le monde matériel. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement une théologie que nous devons avoir, c'est une réalité spirituelle, surnaturelle, que l'Esprit de Dieu veut nous, non seulement nous révéler cette position, mais veut nous faire agir dans ce cadre-là pour que, comme a dit Jésus, que la volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le rôle des chrétiens par la prière, par l'intercession, c'est amener cette réalité du monde invisible dans la réalité visible de ce monde matériel. Jésus a dit qu'il ne faisait les miracles qu'il voyait faire au Père. Donc priorité au monde spirituel et ensuite ricochet et conséquence sur le monde matériel. Mais cela sous-entend que vous et moi, nous n'avons pas, nous devons comprendre qu'il y a une guerre spirituelle. Le monde dans lequel nous vivons, la Bible est claire, est couché sous la puissance du malin. Et que Dieu, dans la mort du Christ, Dieu a tout accompli pour détrôner le diable, pour lui en lui tout droit. Mais c'est à l'Église, c'est aux chrétiens d'établir cela dans leur vie, au travers de leur vie aussi, partout où Dieu les conduit. Et là, il y a une bataille. Une bataille qui n'est pas humaine, c'est la bataille spirituelle avec non pas des armes humaines, mais avec des armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes, dit Paul, de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser ou pour la destruction des forteresses. » L'apôtre Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Et puis, encore autre chose, c'est que la Bible dit, Dieu dit très clairement qu'il a choisi les choses faibles de ce monde. Regardez, Paul dit, il n'y a pas de grands, beaucoup de grands parmi vous dans vos églises. Il n'y a pas les super intelligents, les super riches, les super, hommes du monde qui sont dans les églises. Il y a très peu de gens dans les églises qui sont... Vous savez, souvent dans les églises, les pasteurs, ils aimeraient avoir des gens de la haute société. Mais il y en a très peu. Pour quelle raison? Ça correspond déjà. Un plan, c'est que pour arriver loin, il faut déjà que vous ayez pas mal de passés à régler. Mais il y a aussi le fait, c'est que Dieu utilise des choses faibles. Les faiblesses, ce qui est vil aux yeux des hommes pour confondre les sages. Et Paul dira d'ailleurs que c'est un érudit fini, mais Paul a dit « je regarde ça comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ ». Et les gens qui ont une tête bien pleine ont souvent des difficultés à accepter la simplicité de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 1, 27, Paul dit « mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir la honte des hommes, des choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont. » Là encore, vous devez comprendre l'incroyable influence de la conception du monde dans les églises. Pour nous, quand quelqu'un a un grand titre, pour nous, quand quelqu'un a un grand rayonnement, autorité, on a tendance à raisonner d'après les normes de la société. Je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, Pour nous, par exemple, le plus grand, ben, c'est celui qui dirige, qui domine, etc. Hein, alors que Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Vous avez une contradiction formelle entre l'autorité exercée dans l'esprit, dans le royaume de Dieu, qui est servir, utiliser notre autorité pour servir l'autre, pas pour l'exploiter, pas pour se servir. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois également, le monde essaye, ne veut plus souffrir, le monde essaye d'évacuer la souffrance, les problèmes, le renoncement, la crucifixion de la chair, ça c'est le truc qu'il n'en veut pas, hein. Il veut être libre, il veut se laisser aller, alors que dans le royaume de Dieu, ben, il faut que tu acceptes de crucifier la chair, de renoncer. Il y a deux mondes, il y a deux mondes. Et ça, ça vous expliquera que dans l'église, il y a des gens qui boitent d'un côté ou de l'autre, hein, ou qui essayent d'arranger les deux choses, alors que le vrai disciple, celui qui... pour qui Jésus reviendra, parce qu'il ne revient pas pour les autres, hein. Eh bien, c'est celui qui a, une fois pour toutes, crucifié le monde et la chair avec ses désirs et qui s'est engagé totalement pour Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu où vous êtes pour, vous êtes contre. Et être pour Dieu, ça signifie, à un moment donné, accepter de renoncer à vos propres désirs, à votre propre volonté pour servir le Seigneur et lui donner priorité dans votre vie. Et ça coûte. Crucifier la chair. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons crucifié, quand Jésus est mort, nous étions en lui et notre vieille nature, cette nature rebelle, c'est pas la nature charnelle, c'est pas notre corps physique, c'est la nature de péché, c'est tout ce qui fait en nous les tensions, les rivalités, les jalousies. Vous savez, quand on pense de charnel, on pense à adultère, fornication, c'est un aspect, mais il y a tous les autres, rivalité, orgueil, égoïsme, avarice, toutes ces choses-là, ambition, etc. Tout ça, la nature charnelle. Et quand Jésus est mort, il a pris ça en lui. Il s'est chargé de notre nature charnelle. Elle a été crucifiée en lui. Mais, parce qu'elle a été crucifiée, nous devons aussi, nous, accepter de la crucifier à notre tour. Et ça fait mal. Et c'est là que, pas le temps d'inciter, c'est là que nous avons l'aide de l'Esprit de Dieu. Nous apprenons à être unis à Jésus. Nous renonçons à fur et à mesure que Dieu nous montre les choses. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous renonçons à ce qu'on pourrait appeler la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et il n'y en a pas tellement qui le veulent. Et pour essayer de s'en sortir, alors on crée des doctrines, prospérité, Dieu veut que tu aies tout ce que tu veux quand tu veux. Ça marche un temps, mais ça finit en enfer. Donc, il faut bien comprendre que la vie chrétienne, Jésus a dit que large est le chemin, large est la porte qui mène à la perdition, étroit est la porte, étroite est le chemin. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous devez bien comprendre que le monde chrétien n'est pas forcément un monde où tout le monde est sauvé. Le monde chrétien, c'est ceux qui vivent le royaume de Dieu, et ça coûte de crucifier. Vous avez envie de ça, vous avez envie de ça, vous avez des pulsions intérieures, vous avez la jalousie, vous avez des rivalités, vous avez envie de ceci, vous avez envie de cela, et Dieu vous montre à un moment donné que ça, c'est pas ça ce qu'il veut pour vous. Et là, vous choisissez. Prendre un exemple très clair. Vous avez telle jeune fille, tel garçon, telle jeune fille, elle est là, elle est engagée dans l'église, une fille ou un jeune homme engagé dans l'église. Tamar. Et voilà qu'elle tombe sur un gars qui vient à l'église. Parce que il fait semblant d'être converti. J'ai connu il y a quelques années en arrière, j'ai connu une jeune femme de l'hôpital, et bon, engagée dans l'église, etc. Et il y avait un gars qui travaillait à l'hôpital. Et le gars lui a fait bien sûr croire qu'il était converti, s'est baptisé pour récupérer la fille. Et on lui a dit, attention, j'ai dit attention, pas engagé, pas ceci, mais si, elle était prise par son amour, prise par son désir. Alors qu'on lui avait dit, en tant que pasteur, on lui a dit, attention, il faut que tu renonces à ça, il ne correspond pas. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas crucifié sa chair et ses désirs. S'est mariée, des enfants, malheureux, les années après. À un moment donné, dans ta vie, dans la mienne, il y a des choix qui se présentent. Soit tu acceptes de renoncer à ce que tu aimes, ça peut être l'affection, ça peut être le choix du conjoint, parce que tu sais que ça ne correspond pas, ou parce que ça ne correspond pas à ce que Dieu attend pour toi. Mais si tu fais quand même, tu as, mais des années après, tu pleures. La crucifixion, Dieu n'est pas maso, mais ça coûte de renoncer à notre propre volonté pour le Seigneur, mais si tu le fais, plus tard, Dieu te bénit. Et je connais le cas d'une autre jeune fille, il avait dit, attention, ça ne va pas. Elle a écouté, elle s'est séparée du gars, et quelques années plus tard, elle a trouvé un autre chrétien engagé, et aujourd'hui, heureux et tout. Crucifier la chair avec ses désirs. Parle aux jeunes, là. Faites gaffe, vous pouvez y laisser votre avenir. Hein? Alors, Dieu a choisi les choses folles. Et puis, vous avez toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est que le sang de l'agneau? Qu'est-ce que l'Apocalypse dit? Pierre dira dans 1 Pierre 1,18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Sans défaut, c'est-à-dire sans la nature de péché que nous avons. Jésus n'avait pas de nature de péché, et sans défaut, sans tache, il n'avait jamais commis de péché. Donc, pour comprendre la valeur du sang de Jésus, vous pouvez déjà prendre l'histoire de Pâques, d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Je n'insiste pas, on devait immoler l'agneau pascal, sans tache, sans défaut, et on devait prendre du sang avec une branche d'hysope, et on aspergeait sur la maison où se réunissait la famille pour manger l'agneau pascal. L'hysope était donc le moyen pratique pour mettre le sang sur le linteau. On mettait donc le sang. Le sang était un signe, et pas le temps d'insister, mais le sang, l'hysope, la branche d'hysope, c'était le moyen pour appliquer le sang sur la maison ou sur les sacrifices. Quand Moïse consacre le tabernacle, quand Moïse consacre la parole de Dieu, les décalogues, quand il consacre toute la construction, il prend de l'hysope et il asperge le sang avec l'hysope. L'hysope, c'était donc une branche, mais pour nous chrétiens, nous n'avons plus ce sang des sacrifices, mais pour nous chrétiens, le sang du Christ, vous savez qu'à gauche, donc en Israël, en Égypte, quand ils ont mis le sang, l'ange exterminateur est passé, il n'a pas touché les premiers-nés des enfants. Donc le sang de Jésus avait déjà cette valeur de protection, de séparation. Israël était séparé, Israël était racheté de l'ange exterminateur, Israël était protégé, l'ange exterminateur ne les a pas touchés parce qu'il y avait la marque du sang. Donc, et la Bible nous dit très clairement, en lui, Éphésiens 1,7, dit « En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. » C'est-à-dire, la rédemption, c'est le rachat. Nous avons été rachetés par de nos péchés, la rémission des péchés. C'est-à-dire, tout notre passé, tous nos péchés sont effacés par le sang de Jésus, parce que Jésus s'est chargé en son corps, dans son âme, dans sa personnalité, s'est chargé de nos péchés. Et le sang a donc, la vie de Jésus était dans son sang. Quand Jésus offre son sang, il offre sa vie pour vous et pour moi. Alors comment appliquer ce sang? Et voilà, la première question, comment appliquer ce sang pour avoir le pardon, comment utiliser la branche d'hysope? Et la branche d'hysope, c'est simple, c'est votre confession, c'est ma confession. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Donc dans toutes les situations, quand vous êtes attaqué, vous devez déclarer. Ne pas seulement croire, ne pas seulement penser, mais la bouche, les lèvres ont une importance vitale. Parce que quand tu parles d'une réalité profonde de ton cœur, tu crées, ou tu permets à Dieu de créer. La parole est créatrice, en bien ou en mal. Et donc, nous devons apprendre à déclarer avec hardiesse, j'ai été racheté de l'ennemi, j'ai été délivré de la puissance de Satan, délivré de la puissance des ténèbres par le sang, par son, l'Épître aux Philippiens nous rappelle, il nous a délivré par son sang de toute la puissance des ténèbres. Il y a également, j'ai été racheté de la main de Satan, et quand cela sort de nos lèvres, parce que je le crois dans mon cœur, lorsque je prends cette hysope de la confession et que je le proclame dans chaque situation de mes combats, de mes luttes, de mes problèmes que je rencontre, alors, parce que je le confesse, le sang de Jésus qui est au ciel aujourd'hui, puisque Jésus est monté au ciel, ce sang a une puissance d'action qui ouvre, parce que je le proclame, qui ouvre sur ma vie, qui ouvre sur le terrain de ma vie où j'ai besoin, qui ouvre l'aide, l'intervention de Dieu dans ma vie quotidienne. Mais c'est plus que ça. C'est que ce n'est pas seulement quand je le proclame, mais je suis, en tant que chrétien, je suis constamment sous l'aspersion du sang de Jésus. Il n'y a pas besoin de dire tout le temps le sang, le sang, le sang. C'est une position de foi. Je suis sous le sang de Jésus parce que je suis en Christ et c'est l'aspersion du sang de Christ qui agit là-haut. Mais ce qui est important, c'est que dans les moments de combat, dans les moments de difficulté où je sens que le diable attaque, où je me sens culpabilisé, je proclame la puissance du sang de Jésus qui m'a lavé, purifié. Alors nous arrivons à la purification, ce sang nous purifie, le sang de Jésus pourvoit un besoin vital, c'est-à-dire la purification de nos péchés. Mais si nous marchons, par exemple, Jean, dans 1 Jean 1,7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voyez, c'est pas, alors on ne dit pas le sang n'importe comment, c'est si nous marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière, il y a deux positions très simples. Marcher dans la lumière, c'est déjà dans la lumière par rapport à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu marches dans la lumière si volontairement, quelque part, tu désobéis à la parole de Dieu. La parole est esprit et vie, tu désobéis, tu n'es plus dans la lumière. Je n'ai pas le temps d'insister, mais la lumière, marcher dans la lumière, c'est déjà marcher dans la lumière, dans la transparence, dans l'obéissance, dans l'acceptation de la parole de Dieu dans ma vie. Donc lumière par rapport à la parole, donc par rapport à Dieu. Mais marcher dans la lumière, c'est également marcher dans la relation, dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Ces deux lumières-là. Si vous clochez, alors autant, la parole de Dieu nous dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si vous êtes un faiseur d'histoire, une faiseuse d'histoire, constamment en train de semer la cisanie, non seulement vous n'êtes pas dans la lumière, mais vous créez des ténèbres autour de vous, mais la relâche. Et vous avez beau dire que vous êtes chrétien, que le sang vous couvre, c'est pas vrai. Parce que la relation, tu aimeras. Vous savez, quand il y a eu les deux tables de la loi que Dieu a donné Moïse, sur la première table, il y avait marqué toute la relation que nous devions avoir avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton. Sur la deuxième table, il y avait marqué les relations que nous devions avoir par rapport les uns aux autres. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. C'est impossible, ça c'est se tromper, ça c'est la religion. Mais l'amour de Dieu dans nos cœurs, donc marcher dans la lumière, c'est réellement accepter l'autorité de ces deux conséquences. La communion fraternelle, je le rappelle, et les Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et à ce moment-là, si je vis dans la lumière face à ces deux choses, quelles que soient les luttes, les problèmes, les combats que je peux rencontrer, je proclame l'efficacité du sang. Le sang qui a coulé pour mes péchés, le sang qui enlève toute culpabilité, on va y arriver. La purification. Il y a également un autre point. Nous vivons dans un monde qui a plus de repères, complètement déboussolé, point de vue, j'allais dire, de l'atmosphère. Hein. Eh bien, nous avons besoin, vous et moi, constamment, nous avons besoin dans nos pensées, dans nos mentalités, dans nos yeux, dans tout ce que nous pouvons voir, entendre, vivre, nous avons besoin d'être sous l'aspersion du sang de Jésus. Constamment, nous avons besoin d'être dans cette position de repos en nous purifiant chaque fois que Dieu nous montre quelque chose pour que le sang continue à s'appliquer. Le travail de Satan, c'est justement de faire dégager de là, nous dégager de la lumière intérieure. Ça ne veut pas dire que j'arrive toujours. Ce qui compte, c'est d'être vrai dans la lumière. Eh bien, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est ça l'attaque, nous faire sortir d'un état de lumière intérieure pour que le sang de Jésus n'ait plus son efficacité et alors le diable peut vous attaquer. Mais il y a un autre domaine dans le sang de Jésus. C'est ce que nous trouvons dans Romains 5. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Christ est mort, alors écoutez-moi, par son sang, hein, serons-nous sauvés par lui de la colère, à plus forte raison maintenant, puisque nous sommes justifiés par son sang. Je n'ai pas le temps d'insister, mais je veux simplement vous dire quelque chose. La justification, on nous parle, le sang de Jésus justifie. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans la pratique, hein, parce que c'est simple. Quand la Bible dit que le sang de Jésus nous rend juste, vous rend juste, ça ne veut pas dire seulement que votre péché est effacé, que votre passé est pardonné, que c'est pas ça. C'est ça en partie, mais c'est pas ça la profondeur. La profondeur, ça veut dire simplement que maintenant, vous devez vivre par la foi en croyant que c'est la justice de Dieu, la nature juste de Dieu qui est votre justice. C'est comme dans la foi. Nous disons qu'il faut avoir la foi en Dieu, mais la profondeur d'une vie spirituelle, c'est plutôt avoir la foi de Dieu. La foi de Jésus, c'est Jésus qui doit croire au travers de nous. Et bien de la même façon, la justice, cette justice que le sang de Jésus nous a acquis, c'est pas simplement extérieur, nous débarrasser de toutes nos lacunes, de toutes nos fautes que nous avons faites ou que nous pouvons encore faire, et que si nous confessons, il nous pardonne. C'est plus que cela. Et c'est là, quand la Bible dit comment juste, que Abraham fut, que la justice lui est imputée, mon juste vivra par la foi, c'est quoi? C'est aberrant, c'est illogique, ça n'a rien à voir avec la conception du monde ou du légalisme religieux qui dit « parce que t'as bien fait, t'es juste, parce que t'as obéi, t'es juste, parce que t'as fait ceci, t'es juste ». Ça, c'est encore le légalisme religieux. Mais la Bible, elle, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance vous dit non. Tu n'es pas juste parce que t'as bien fait, tu n'es pas juste parce que tu as obéi. Ça, nous sommes tous habitués à cet esprit religieux. Moi-même, je l'ai prêté, bon, il faut être ça, il faut chercher, il faut... Non, fondamentalement, tu es juste parce que tu crois maintenant que c'est la justice de Jésus à ta place qui compte, pas la tienne. La justice de Jésus. Mais ça va plus loin. La justice de Jésus, c'est la justice de Dieu. C'est comme si, si vous voulez, c'est comme si vous aviez un scaphandre, vous êtes au fond de la mer, dans la boue du péché, mais vous êtes relié à un oxygène en haut. Et cet oxygène, ce n'est plus vos mérites. Je fais du bien, je lis ma Bible, je donne ma dîme, je fais ceci, pour que je puisse plaire à Dieu, non. Tu es juste, tout simplement parce que l'oxygène qui est en toi, c'est l'oxygène de la justice de Dieu. C'est Dieu qui est juste en toi. Et ça vous montre combien nous avons besoin de changer dans nos raisonnements. Nous sommes habitués, tellement habitués par le bien, le mal, c'est vrai que la Bible, elle dit non, tu es juste par ta foi. Mon juste vivra par la foi. Par la foi en quoi ? Par la foi dans la justice. La Bible dit que je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que vous voyez autour de vous toutes les choses contraires, la croissance dans la foi, c'est arriver à amener toutes vos situations dans cette optique-là. Et la Bible dit, si Dieu nous a aimés alors que nous étions ennemis, maintenant que nous sommes justes, vous allez me dire, mais comment je suis juste, il y a encore plein de pépins dans ma vie. Non, ça c'est ta vieille nature, ça c'est... Non, ça a été crucifié. Tu es juste par ta foi en Dieu lui-même. C'est la justice de Dieu qui compte maintenant, celle que tu as en toi. Tu es juste aux yeux de Dieu parce que c'est la justice même de Dieu, la sienne, qui est en toi. Donc tu dois, dans tes relations avec Dieu, tu dois raisonner sur ce chemin-là. Non plus tes propres œuvres, mais je suis juste parce que c'est la justice de Dieu qui est en moi. C'est extrêmement important. Et alors, nous recevons... non pas par notre propre justice, mais par la justice de Jésus. C'est extrêmement important, et la croissance chrétienne, c'est approfondir ces choses-là, en osant croire, face aux défis, vous avez encore des faiblesses, vous avez encore, mais Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes l'étarment. Donc c'est en comptant sur sa justice, c'est en comptant sur sa vie, en attendant sa vie, son esprit, que progressivement, vous changez de gloire en gloire. Non pas par vos efforts. Vos efforts, c'est renoncer à la vieille nature, mais le changement, c'est pas vos efforts qu'ils feront, c'est votre foi dans le Christ qui vit en vous. Il est le cep, vous êtes les sarments, et vous puisez par la foi la sève qui, elle, change. Donc, la justice, ça, justification. La véritable justice de Dieu lui-même. Il n'a jamais connu le péché, il n'a jamais été souillé. Hein. C'est cette forme de justice que nous recevons par la foi dans le sang de Jésus. Rendez compte, Dieu n'a jamais péché, Dieu n'a aucune ombre de péché, et c'est cette justice-là qui est en vous maintenant, et qui se développe si vous osez y croire. Donc la bataille, ce sera toujours entre votre notion de justice humaine et cette foi dans la justice de Dieu en Jésus-Christ, dans lequel j'ai été mis dans sa mort et dans sa résurrection. Et puis il y a un autre aspect, le sang de Jésus nous sanctifie, c'est la sanctification. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le sang de Jésus a comme objectif, en Égypte, vous l'avez vu, il mettait ça sur les pierres, sur les maisons, eh bien, c'était la sanctification. La sanctification, ça veut dire séparation. Et le peuple d'Israël en Égypte était séparé du peuple égyptien. Partout, il y avait le sang. Regardez, à Goshen, il y avait la lumière, alors qu'ailleurs, il y avait les ténèbres. Les animaux des Israélites n'étaient pas touchés, les animaux des Égyptiens, oui. Les premiers-nés des Israéliens n'ont pas été touchés, les premiers-nés des Égyptiens. Pourquoi ? Il y avait le sang. Et le sang, c'était la marque de la séparation, mise à part. Sanctification veut dire mise à part. Et quand, dans ta marche chrétienne, il faut que tu arrives à croire que par ta foi, non pas par tes œuvres, parce que tu as réussi, parce que tu es déjà transfert, super, non, par ta foi, dans le sang. cette mise à part que Jésus a opérée lorsqu'il a répandu son sang il y a 2000 ans pour toi et pour moi, cette mise à part s'accomplit par l'action du Saint-Esprit progressivement à cause de ta foi. Mais le sang de Jésus t'a mis à part. Sanctifié, tu es à part. Le Seigneur a établi une différence entre ceux qui sont son peuple et ceux qui ne le sont pas par le sang. C'est que le sang de Jésus nous a rachetés, mais il nous a aussi sanctifiés par le de Jésus. Je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Le diable n'a aucune place en moi, aucun pouvoir sur moi, aucune revendication non réglée. Tout a été payé par le sang. Le sang vous met à part. Le sang, votre foi dans le sang, vous permet de proclamer ça. Quand vous proclamez votre foi dans la puissance de séparation du sang, le diable n'a plus le droit de vous toucher. Il n'a pas le droit de vous toucher parce que vous êtes sous le sang. Et ça, vous devez le proclamer. Même s'il attaque, vous le proclamez. Vous le proclamez, il est obligé de fuir. Même si ça ne se fait pas immédiatement, c'est le combat de la foi, vous le faites. Le sang de Jésus vous a mis à part. Et puis enfin, il y a un autre point encore que j'aimerais souligner, c'est que la Bible nous dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Dans notre combat contre Satan, nous ne devons pas être passifs, mais passer à l'attaque dans la foi. Jésus nous a équipés avec les armes de son sang, de sa parole et de notre témoignage. Rappelez-vous, l'hysope, c'est notre témoignage. Vous devez comprendre, pendant que vous êtes assis ici, que là-haut, sur le trône même de Dieu, Jésus, la Bible nous dit que Jésus a traversé les gens inférieurs, il est monté avec son propre sang. Et vous devez croire, vous devez le savoir, mais vous devez parfois le proclamer dans vos luttes, dans vos combats, vous devez proclamer que vous êtes sous l'aspersion du sang qui parle mieux qu'Abel. C'est-à-dire que là-haut, dans le ciel, le sang de Jésus est constamment devant le trône de Dieu. Dans un esprit éternel, dit la Bible, il s'est offert. Vous montrez ce que ça veut dire. Quand Cain, dans le livre de Genèse, quand Cain a tué son frère Abel, qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Le sang de ton frère Abel crie de la terre vers moi. Donc le sang d'Abel crie vengeance. Là-haut, dans le ciel, le sang de Jésus crie miséricorde. Cri du sang de Jésus. L'aspersion du sang de Jésus, c'est le cri du sang de Jésus. Donc, que vous veilliez, que vous dormiez, le sang, vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus. Et tant que vous marchez dans la lumière, le sang de Jésus vous lave, vous purifie, vous êtes sous la purification continuelle du sang. Mais c'est quelque chose de tragique, c'est que ceux qui quittent la lumière, ceux qui ont un cœur double, tôt ou tard, ouvrent la porte aux malins. N'oubliez jamais que ce sont ceux qui sont en Christ qui sont enlevés, pas les autres. Être en Christ, c'est transparence, la puissance du sang, la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie, ils ont vaincu par le sang, par la parole de leur témoignage, c'est la parole prononcée, parce qu'elle est vécue, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais ça, les gens enlevés. Les autres, c'est religion pentecôtiste, c'est évangélique, tout ce que vous voulez, mais pas enlevés. Vous devez comprendre que la crucifixion de la chair, c'est-à-dire le renoncement à notre nature de péché, parce que vous et moi, nous avons hérité de nos pères la nature de péché. La nature de péché, ce n'est pas votre corps physique, je le rappelle, ni votre âme, ni vos pensées, ni vos raisonnements, ni même votre esprit qui vient de Dieu. Votre nature charnelle, c'est cette vitalité de péché qui est en nous, qui agit dans nos membres, qui agit dans nos pensées, qui agit. C'est cette nature de péché qui vient de la chute. Et cette nature de péché, elle est anti-Dieu. Et Dieu, elle peut être religieuse, elle fait de la magie, elle fait tout ce que vous voulez, mais Dieu n'en veut pas. Donc tout ce qui, dans ma vie, puise son origine là-dedans, sera rejeté. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous invite à crucifier la chair avec ses convoitises, parce que ceux qui ne le font pas, ne seront pas enlevés. Dieu a tout fait, mais il faut qu'on le fasse. Et quand vous voyez, parfois, alors, il faut bien comprendre quand on parle de mondanité. Mondanité, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller comme au XVIe siècle. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut avoir des habitudes, mondanité. La mondanité, c'est aimer les choses du monde qui sont contraires à celles de Dieu. Ça, La mondanité biblique. N'aimez pas le monde, c'est ça. Mais il faut bien que je vive dans le monde, je peux bien avoir des loisirs, ça dépend des lois. Vous avez remarqué, savez-vous que les temps de vacances sont les plus difficiles pour un chrétien? Même Dieu, c'est pas vrai. Si. Les vacances d'été, c'est là que vous voyez les chutes les plus vertigineuses. C'est là que les gens, à la fin, la rentrée démissionnent, c'est là qu'à la rentrée... Pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Normalement, les vacances... Parce que vous avez deux façons de prendre les vacances. Vous avez les vacances bibliques, sabbatiques, c'est-à-dire vous prenez, vous avez du temps libre, vous ne travaillez pas, donc vous avez du temps libre pour prendre du temps avec Dieu, pour regarder certains livres, pour certaines Bibles, pour prendre du temps, etc. Mais beaucoup de chrétiens, au moment des vacances, ils retrouvent la famille inconvertie, qui les invite dans des trucs pas toujours très chrétiens. Ils n'ont plus l'église derrière et le culte hebdomadaire ou la réunion, le culte du dimanche matin parce qu'ils sont à droite, à gauche, ils sont au soleil, la promiscuité, et ils sont étiolés, étiolés, étiolés. Ils sont en vacances spirituelles et ils ouvrent leurs portes à l'influence du milieu d'un calibre. Les vacances d'un chrétien sont extrêmement dangereuses ou glorieuses. Or, on voit, c'est comme certains quand ils prennent la retraite. Maintenant, il y a des chrétiens engagés qui vivaient très bien dans leur... qui vivaient avec Dieu dans l'église. Et la retraite, ils posent leur valise. Maintenant, on se tape des voyages ici, on va là, on fait ceci. Ce qu'on n'a pas pu faire avant, on le fait maintenant, puisqu'on a le temps. Sans se rendre compte, ils prennent leur retraite pour leur destruction. Alors que la véritable retraite te libère pour servir davantage Dieu. Vous avez beaucoup de retraités, vous ne les retrouvez plus engagés, viennent de temps en temps. Et vous avez d'autres qui, au contraire, profitent pour aller à fond au service. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais étonné. Des vieux chrétiens de 35 ans, que je connais depuis longtemps, couple de familles portugaises, sont maintenant dans une église annexe. Mais chaque fois que je me suis retrouvé à l'hôpital, qui sait que je vais y arriver le dimanche après-midi ou le dimanche soir? Ce vieux couple. Et ça, depuis des années. Pourquoi? Parce que depuis, ils sont à la retraite. Il y en a une qui s'implique dans la Croix-Rouge. Ils interviennent ici, ils interviennent là. Mais leur vie, leur loisir, ils ne concevaient pas qu'un dimanche après-midi, alors qu'il y avait des frères à l'hôpital, ils ne concevaient pas de ne pas aller les voir. Jésus a dit, mais en prison, à l'hôpital, va les visiter. Mais quand est-ce que nous t'avons visité? Quand vous avez fait ça? Un plus petit frère. Or ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui dans le peuple. Ça, c'est les vieux chrétiens d'avant-guerre. Mais je vais vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. La crucifixion, c'est, ça coûte, ça fait mal. Vous plantez un clou dans la main droite, un clou dans le pied, vous hurlez, mais il faut le faire. Renoncer, et parler la dernière fois, c'est dépouiller là où Dieu nous le montre, pas par masochisme, mais quand Dieu nous le montre. Et à ce moment-là, je termine là, à ce moment-là seulement, vous ouvrez le ciel sur votre vie. À ce moment-là, les révélations viennent. À ce moment-là, la présence authentique de Dieu vient. C'est par la mort que la vie jaillit. Vous savez, quand vous prenez le livre de la Genèse, quand Dieu a créé, qu'est-ce qu'il dit? Il créa le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Quoi dit la Bible? Il y eut un soir et il y eut un matin. Pas normal, ça. Normalement, on dit, il y a un matin et un soir. Matin et soir, nous, on dit dans le langage courant. La Bible dit non, soir et matin. Le sabbat commence le soir. Pourquoi? Que si tu veux vivre le matin de Dieu, il faut que tu acceptes de passer par le soir de la crucifixion. Si tu veux ressusciter, si tu veux vivre la vie de résurrection, il faut que tu acceptes la vie de mourir. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Soir et matin. Allez, en avant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.